Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 1, scène 2. Le prince André, obligé, par suite de ses affaires de tutelle, de se rendre chez le maréchal de noblesse du district, qui n'était autre que le comte Élie Andreïevitch Rostov, fit cette course dans les premiers jours de mai. La forêt était toute feuillue, et la chaleur et la poussière si fortes que le moindre filet d'eau donnait envie de s'y baigner. Préoccupé des demandes qu'il avait à adresser au comte, il s'était déjà engagé sans s'en apercevoir dans la principale allée du jardin qui menait à la maison d'Outradnoye, lorsque de joyeuses voix féminines se firent entendre dans un des massifs, et il vit quelques jeunes filles accourir à la rencontre de sa calèche. La première, une brune qui avait la taille très mince, les yeux noirs, une robe de nankin, avec un mouchoir de poche blanc jeté négligemment sur sa tête, d'où s'échappaient des mèches de cheveux ébouriffées, s'avançait vivement en lui criant quelque chose. Mais à la vue d'un étranger, elle se retourna brusquement sans le regarder et s'enfuit en éclatant de rire. Le prince André éprouva une impression douloureuse. La journée était si belle, le soleil si étincelant, tout respirait un tel bonheur et une telle gaieté, jusqu'à cette fillette, à la taille flexible, qui, tout entière à sa folle mais heureuse insouciance, semblait songer si peu à lui qu'il se demanda avec tristesse.
« De quoi se réjouit-elle donc? À quoi pense-t-elle? Ce n'est sûrement ni le code militaire ni l'organisation des redevances qui l'intéresse. »
Le comte Élie Andreïevitch vivait à Outradnoye comme par le passé, recevant chez lui tout le gouvernement et offrant à ses invités des chasses, des spectacles et des dîners avec accompagnement de musique. Toute visite était une bonne fortune pour lui. Aussi le prince André dut-il céder à ses instances et coucher chez lui. La journée lui parut des plus ennuyeuses, car ses hôtes et les principaux invités l'accaparèrent entièrement. Cependant, il lui arriva à plusieurs reprises de regarder Natacha qui riait et s'amusait avec la jeunesse. Et chaque fois, il se demandait encore
« À quoi peut-elle donc penser ?»
Le soir, il fut longtemps sans pouvoir s'endormir. Il lut, éteignit sa bougie et la ralluma. Il faisait une chaleur étouffante dans sa chambre, dont les volets étaient fermés, et il en voulait à ce vieil imbécile, comme il l'appelait Rostov, de l'avoir retenu en lui assurant que les papiers nécessaires manquaient. Il s'en voulait encore plus à lui-même d'avoir accepté son invitation. Il se leva pour ouvrir la fenêtre. À peine eut-il poussé au dehors les volets que la lune, qui semblait guetter ce moment, inonda la chambre d'un flot de lumière. La nuit était fraîche, calme et transparente. En face de la croisée s'élevait une charmille, sombre d'un côté, éclairée et argentée de l'autre. Dans le bas, un fouillis de tiges et de feuilles ruisselait de gouttelettes étincelantes. Plus loin, au-delà de la noire charmille, un toit brillait sous sa couche de rosée. À droite, s'étendaient les branches feuillues d'un grand arbre, dont la blanche écorce miroitait aux rayons de la pleine lune qui voguait sur un ciel de printemps pur et à peine étoilé. Le prince André s'accouda sur le rebord de la fenêtre et ses yeux se fixèrent sur le paysage. Il entendit alors, à l'étage supérieur, des voix de femmes. On ne dormait donc pas. « Une seule fois encore, je t'en prie !» dit une voix que le prince André reconnut aussitôt. « Mais quand dormiras-tu donc ?» reprit une autre voix. « Mais je ne puis dormir, ce n'est pas ma faute !» « Encore une fois !» Et ces deux voix murmurèrent à l'unisson le refrain d'une romance. « Dieu, que c'est beau ! Eh bien, maintenant, allons dormir !»« Va dormir, toi. Quant à moi, ça m'est impossible. » On distinguait le léger frôlement de la robe de celle qui venait de parler, et même sa respiration, car elle devait s'être penchée en dehors de la fenêtre. Tout était silencieux, immobile. On aurait dit que les ombres et les rayons projetés par la lune s'étaient pétrifiés. Le prince André avait peur de trahir par un geste sa présence involontaire. « Sonia, Sonia !» reprit la première voix. « Comment est-il possible de dormir ? Viens donc voir comme c'est beau ! Dieu, que c'est beau ! Éveille-toi !» Et elle ajouta avec émotion, « Il n'y a jamais eu de nuit aussi ravissante. Jamais, jamais !» La voix de Sonia murmura une réponse. « Mais viens donc, regarde cette lune, mon cœur. Ma petite âme, mais viens donc. Mets-toi sur la pointe des pieds. Rapproche tes genoux. On peut s'y tenir deux en se serrant un peu. Tu vois, comme cela. Prends donc garde, tu vas tomber. » Il y eut comme une lutte, et la voix méchante de Sonia reprit. « Sais-tu qu'il va être 2 heures ? Ah, tu me gâtes tout mon plaisir. Va-t'en, va-t'en. » Le silence se rétablit, mais le prince André sentait, à ses légers mouvements et à ses soupirs, qu'elle était encore là. « Ah ! Mon Dieu !» dit-elle tout à coup. « Eh bien, allons dormir, puisqu'il le faut. » Et elle ferma la croisée avec bruit.
« Ah oui, que lui importe mon existence ?»
se dit le prince André, qui avait écouté ce babillage et qui, sans savoir pourquoi, avait craint et espéré entendre parler de lui.
Toujours elle, c'est comme un fait exprès.
Et il s'éleva dans son cœur un mélange confus de sensations et d'espérance, si jeune et si opposé à sa vie habituelle qu'il renonça à les analyser. Et, se jetant sur son lit, il s'endormit aussitôt.